Émission en jase qui se poursuit. On a Gabriel Hardy, député du Parti conservateur du Canada pour Montmorency, Charlevoix, qui est avec nous en studio. Je vous rappelle, meilleure façon de nous écouter, l'application BLVD 101 que vous pouvez télécharger sur le App Store et Google Play Store. Et si vous voulez venir voir un bon entraîneur physique, une vraie pièce d'homme, c'est sur twitch.tv /BLVD/FM. Gabriel Hardy, comment vas-tu?
Ça va bien, vous autres?
Ça va super bien. Merci beaucoup de participer à l'émission en jase. Gab, j'ai pas le choix de te poser la question en partant. T'es un sportif.
Oui, monsieur.
T'es un gars qui a un gym.
Oui.
Tu aimes beaucoup l'activité physique. Es-tu pour le fait que Doug Ford dise à tout le monde dans les écoles en Ontario, écoutez-moi ces deux matchs de hockey-là, ça presse?
Ben, écoute, je peux pas être contre. Hein. On s'entend qu'on est derrière notre pays puis on a le goût que le Canada gagne. Donc oui, j'encouragerais tout le monde. Moi, mon fils, je suis tellement content. Les jeunes ont négocié avec les profs. Puis ils ont rentré une télé dans la classe, puis même le prof, en même temps qu'il travaillait, il checkait la game, puis là, ça criait
secondaire
dans les corridors.
Primaire?
Secondaire.
Secondaire.
Fait que ça, je trouve ça le fun, parce que le sport, l'activité physique, puis la fierté nationale, ça doit être au cœur de l'éducation, je pense. Puis c'est incroyable de voir ça aller. Fait que oui, go Canada, go. On a une médaille d'or à aller chercher.
Moi, je le racontais hier, mon fils, justement, quand je suis allé chercher son meeting de football mardi soir, il embarque dans l'auto, puis il dit « Père, je vais rater mon cours de français demain. » Fait que là, genre, ouais, comment ça? Et je vais écouter Canada contre la Tchéquie. Puis genre, ouais, ouais. Il dit « J'ai parlé à la prof de français aujourd'hui, puis elle veut pas faire comme mon prof d'histoire l'autre jour pour le premier match Canada-Tchéquie. » Avait absolument donné son cours. Fait que j'ai décidé que moi, j'écoutais Canada-Tchéquie. Et là, je lui ai fait peur 2 secondes et quart. J'ai dit, tu sais que pour ça, il faut que ton père ou ta mère motive ton absence. Et là, il m'a regardé les yeux dans l'eau, les petits genoux qui shakaient, même si c'est un grand bonhomme de 16 ans. Puis il m'a dit, tu feras pas ça. J'ai dit non.
Mais
je vais motiver ton absence.
Je vais faire un du pouce sur ce que tu viens de dire. J'ai écrit une lettre aujourd'hui sur mes médias sociaux qui parle de l'investissement qu'on a à faire dans le sport, l'activité physique, comme la santé, en fait, la santé de notre nation. Puis tu sais, c'est drôle parce qu'on voit l'éducation physique à l'école comme de quoi de cool. T'sais, c'est le fun, mais c'est pas essentiel. Puis tu sais, tu parles des matières, histoire, français, mathématiques et compagnie. Puis c'est vraiment pas pour les mettre de côté, absolument pas. C'est la fondation de l'éducation, mais il n'y a pas grand monde qui meurt à chaque jour d'avoir manqué de maths dans leur vie.
C'est vrai.
Mais les gens sont dans les hôpitaux à cause des maladies chroniques. Mm-hmm. Ils sont dans les hôpitaux parce qu'ils sont sédentaires. Puis on devient malade à force de ne pas bouger. Et là, on est dans un contexte olympique. On s'entend que c'est de l'élite. Puis c'est une fierté nationale, mais c'est aussi un message. Je pense que si on valorise le sport et l'activité physique comme fondation d'une société en santé physique, en santé mentale, en santé communautaire, et que les profs embarquent dans l'aventure pour dire « le prof d'éduc, c'est quoi? Il est aussi important que le prof de maths. » On va avoir une société plus en santé puis juste qui va se porter mieux.
Tu as tellement raison. Je suis d'accord avec toi parce que de toute façon, l'activité physique, ça fait partie des saines habitudes de vie. Lorsque tu bouges, tu vas mieux manger, tu vas mieux prendre soin de ton corps. La santé mentale va être bonne aussi parce que justement, tu fais de l'activité physique. Puis regarde encore une tranche de vie personnelle. Moi, mon garçon avait été accepté dans le programme d'études internationales.
Okay.
Mais son école de quartier au primaire offrait un programme santé globale. Donc, tu avais plus de périodes d'activité physique que la normale, puis il y avait des projets spéciaux, puis des randonnées pédestres, puis le kit.
Génial.
Puis j'ai dit, sais-tu quoi? Tu vas aller à ton école de sport. Je le regrette pas, mais pas.
Ben non, puis c'est une habitude de vie que tu vas garder. Tu sais, ils l'ont démontré à des jeunes qui font un sport unique, super concentré, avec spécialisation hâtive. La grande majorité, là, puis je ne suis pas à 51%, là, je pense qu'on est à 80%, vont arrêter le sport après avoir fini, exemple, leur carrière au cégep ou à fin secondaire et autres. Et ils vont juste adopter un mode de vie sédentaire. Ceux qui sont multisports, qui ont pratiqué plusieurs sports, qui ont un bon bagage moteur, vont rester actifs plus longtemps.
Ouais.
Et ça, c'est des gens qui vont être plus en santé, vont être bien dans leur peau, vont avoir justement d'autres manières de combattre le stress, d'aller ventiler.
Mm-hmm.
Ils vont juste être en meilleure santé physique et mentale. Puis ça, ben, on le sait, là, l'argent présentement va dans les hôpitaux parce qu'on attend toujours que le monde soit malade.
Alors qu'elle devrait aller en prévention.
On devrait prévenir.
Ben
on devrait prévenir.
Oui,
1$ investi, c'est 3 à 20$ sauvés.
Hey,
avec une moyenne acceptée de 13. C'est énorme.
Ah non, c'est énorme. C'est fou, fou, fou. Puis quand tu parles de la multi-activité, les multisports, je suis tellement d'accord avec toi. Moi, j'ai été élevé dans les patros, fait qu'on pratiquait tous les sports.
Oui.
Puis c'est ce que j'ai inculqué à mes enfants. Fait que mes enfants font du hockey, du foot, du tennis, du baseball, du golf.
Oui.
Puis comme ça, ça leur permet d'avoir, de un, un cercle d'amis très grand.
Très grand.
Qui fait en sorte que s'il arrive de quoi dans leur vie, ils ont toujours une épaule sur qui s'accoter. Puis ça leur permet justement de diversifier les activités, de toujours faire du sport. Je suis convaincu qu'on va faire du sport jusqu'à leur tombe. Là,
oui,
comme ça,
puis
là.
En bout de ligne, c'est-tu quoi? Ça crée des athlètes plus complets. Tu sais, quand on parle d'un pool de gens actifs, là, ben, les pays qui valorisent le multisport sont souvent plus aux Olympiques. Parce que quand tu as un grand bagage moteur, quand vient le temps de te spécialiser dans un sport, et la plupart des sports collectifs sont développement tardif, tu arrives à 18-19 ans, là, tu as un large bagage moteur, tu n'es pas surspécialisé, puis ça fait de toi des meilleurs athlètes. Donc, au total, tu as plus de médailles quand tu investis dans la participation au lieu d'investir dans l'élitisme.
Tu as tellement raison.
Alors, voilà. Tranche de sport.
Tranche d'activité sportive. Je salue tous les enseignants qui nous écrivent pour dire « Hey, moi, mon école, elle me dit que j'ai pas le droit de diffuser les Olympiques, mais inquiète-toi pas, je m'organise pour le diffuser. »
Let's go, les iPads.
Hey, moi, je suis une prof de musique. Salut, Cindy, je suis une prof de musique. On a installé des TV dans l'Agora, dans la cafétéria, puis moi, la fin de mes cours, on regarde les Olympiques.
Merci aux profs d'être allumés comme ça.
Ah,
puis
merci.
C'est une fierté, puis c'est un bon enseignement.
Vraiment.
Puis merci d'être là.
Parlons politique. Est-ce que les libéraux font du maraudage présentement chez vous?
Ben oui.
Joël Lightbound vient de nous dire non.
Ben oui, ils font du maraudage.
Comment ils font ça?
Moi, je me suis fait approcher drôlement dans un ascenseur. J'ai été entouré de 3-4 libéraux. Puis là, j'ai dit, tabarnouche, quand la porte va fermer, gang, ça va brasser. Puis ils m'ont dit, c'est comme ça que ça a commencé avec M. D'Entremont. Je suis comme, OK, merci beaucoup.
L'ascenseur.
Ouais, mais tu sais, je pense qu'il y a des réunions qui se font aussi. Il y a des histoires à gauche, à droite. M. Carney essaie de gouverner sans passer par la démocratie parce qu'il est habitué dans le domaine du privé. Donc, par en arrière, c'est plus facile que de déclencher des élections. Puis c'est pas une personne qui apprécie beaucoup le Parlement. T'sais. C'est pas une personne qui aime répondre aux questions.
Il est souvent absent.
Il est souvent absent, puis il va le dire que c'est sur le dos d'aller développer des marchés. Mais, tu sais, on voit que c'est un plan. Ils veulent faire leur plan. Puis malgré le fait qu'ils sont minoritaires, puis ça, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on doit souligner. Le peuple a dit, il y a moins d'un an, vous êtes un gouvernement minoritaire, arrangez-vous, collaborez pour faire avancer le pays. Nous, semaine après semaine, on dit, écoutez, là, on veut collaborer. C'est pas parce qu'on s'oppose à quelque chose. T'sais, si 90 % est bon, mais qu'il y a un 10 % que nous, on dit, ça doit pas être là. Exemple, vous voulez aller fouiller dans le mal du monde. Non. Vous voulez fermer les téléphones quand ça vous tente. Non. Vous voulez enlever des libertés. On n'est pas d'accord avec ça. Mais ça ne veut pas dire que l'ensemble, parce que la plupart du temps, ils prennent des propositions conservatrices. Fait que, on est comme d'accord avec le fond, mais il y a des éléments à enlever. C'est pas de fermer le Parlement, c'est pas de contrer la démocratie que de négocier, surtout dans un mandat minoritaire. Puis on se fait accuser de faire des entraves puis de bloquer le Parlement. C'est pas vrai. Mais M. Carney n'est pas à Brookfield. C'est pas le boss du Canada. On est dans une démocratie. Et là, ce qu'on voit, c'est des libéraux qui essayent de gouverner sans passer par la démocratie. Et ça, c'est ce que je crois qui doit être souligné comme message.
Bien, justement, la façon que Mark Carney tente d'avoir sa majorité présentement, pour vous, c'est antidémocratique et malhonnête, de ce que je comprends.
Bien, c'est que tu passes pas par les gens, tu sais. Puis moi, j'ai toujours dit, puis je vais être encore clair là-dessus, parce que mon nom est sorti dans quelques articles qui disaient, tu sais, j'ai gagné par une majorité, pas une grande majorité, mais tu sais, un petit nombre. Moi, je trouve que les électeurs qui te soutiennent dans une campagne électorale, qui vont faire du porte-à-porte avec toi, qui vont donner de leur argent, ils ramassent leur argent, ils sont durs à gagner l'argent de ce temps-là, puis il n'en reste pas bien à la fin du mois, puis ils vont soutenir, puis ils vont te faire un don. Ces gens-là, c'est pas vrai qu'ils ont dit « Ouais, peu importe, là, tu iras représenter qui tu veux. » Mais par respect pour ceux qui votent, puis qui donnent leur temps, puis de leur argent, que toi, de manière personnelle, tu décides de changer de côté, ça, c'est pas bien.
Est-ce qu'on devra faire des élections dans ce cas-ci?
Bien, si tu veux ne pas représenter ton parti, mettons que tu t'entends plus, exemple, puis que
t'es Matt Généroux, exemple.
Bon, ta vision change. Donne le choix au peuple. Tu sais, t'es pas 100 % de la décision. Mets ta face sur un fond rouge, là, puis attends de voir si les gens, c'est ça qu'ils veulent. Puis si c'est ça qu'ils veulent, reviens au Parlement, puis c'est correct. Mais de ce qu'on voit présentement, ce maraudage-là, puis cette recherche de la majorité par des moyens qui sont autres que l'élection... Moi, je trouve pas ça démocratique, puis je trouve que c'est un manque de respect envers les gens. Puis Je vais aller même un peu plus loin, puis je pense que c'est un sujet qu'on devrait parler. Moi, j'en parle souvent dans mes comités puis au Parlement. Il y a un grand cynisme par rapport à la politique.
C'est vrai.
Depuis, moi, je n'étais pas politicien il y a un an. Là, on s'entend que c'est récent.
Là, voilà, puis par texto, 418-971-101, on va dire, hey, croyez-vous que la CAQ va vraiment faire ce changement-là? Non, c'est tout pareil, les politiciens.
Puis on lit beaucoup sur les réseaux sociaux. Moi, vous autres, les politiciens, puis je suis comme gang. Il y a un an, j'étais dans un gym entraîné du monde, puis je lis comme les politiciens. Moi, je suis un gars en politique. Là,
oui.
Mais à un moment donné, c'est important que la démocratie elle soit respectée. On a besoin de la démocratie. Puis à chaque fois que ce genre de choses-là arrive, je trouve qu'on vient effriter la confiance du public, on vient effriter la confiance des voteurs. Hein. Puis moi, on est là pour servir les gens, on n'est pas au-dessus d'eux autres. En fait, on est à l'écoute. Ma job, moi, c'est d'amener le message de Montmorency-Charlevoix à Ottawa. Pas de dire aux gens de Montmorency-Charlevoix ce qu'ils devraient penser, c'est l'inverse.
T'es nouveau en politique, chemin, te rends-tu compte qu'il y a beaucoup de gens qui se croient au-dessus de la mêlée?
Écoute, je me concentre vraiment sur mes choses. Là. Ouais. Je te dirais que j'analyse pas beaucoup ce qui se passe ailleurs que de mon comté puis de m'occuper de mon monde. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je me vois vraiment comme une personne qui est au service de la population. J'aime rencontrer, j'aime discuter et j'aime aussi rencontrer du monde qui sont pas de mon opinion. Moi, je trouve qu'on est rendu dans une société qui aime pas entendre des opinions contraires. Puis les plus belles discussions que j'ai eues en campagne, c'est avec des gens qui votaient pas pour moi. Mais en bout de ligne, je trouve que le faire aiguise le fer, puis c'est comme ça que tu fais avancer. Ouais. Puis c'est pour ça que j'aime le Parlement et la démocratie. On s'affronte dans nos idées, puis en bout de ligne, le peuple gagne quand on est capable de s'entendre pour les représenter. Pas quand c'est « je fais ce que je veux comme je veux, puis si tu penses pas comme moi, t'asseoir dans le chemin ». Alors, c'est ça. Le rôle d'un député, c'est vraiment d'être là pour sa circonscription, pour ses gens, d'être à l'écoute puis d'amener les enjeux. Et quand tout le monde est ensemble puis amène les enjeux, là, on est capable d'en débattre puis de trouver des solutions pour avancer.
Pour rappel, on parle avec Gabriel Hardy, qui est député pour le Parti conservateur du Canada de Montmorency-Charlevoix. T'sais, on va en faire un débat parce que j'ai vu ton vidéo sur ta plateforme du 9 février dernier où tu parles du français qui est respecté partout au Canada.
Ouais, ouais.
Pas d'accord, moi, avec ça. Je fais juste me promener à Montréal puis je suis pas capable d'être servi en français. Ouais.
Ça a été, j'ai été maladroit, honnêtement, de ma manière de l'amener. J'ai parlé de ma vision qui a changé depuis que je vis à Ottawa. Parce qu'on le sait, député fédéral, tu vis à Ottawa.
En effet.
Moi, je m'attendais à travailler en anglais. Puis je suis arrivé à Ottawa, puis je suis parfaitement bilingue, puis tu sais, je suis très, très fluide. Il n'y a pas de problème en anglais ou en français. Je comprends bien, je parle très bien. Puis je parle en français à tous les jours. Je suis comme, OK, ben, salut tout le monde. Puis tous les députés à travers le Canada m'ont fait sentir, ils viennent me voir. Je regarde Aaron Gunn, qui est mon voisin à droite, Mike, qui est juste au bord.
Ils font l'effort de te parler en français.
Oui, Kurt, qui est à côté de moi. Et Kurt, il me disait, hey, j'ai commencé le Duolingo, le français, je veux vraiment l'apprendre, j'ai le goût de le parler. Mike, il me dit, ma femme, puis mes enfants sont... Ma femme, dans le fond, elle parle plus français parce que mes enfants sont en immersion francophone, puis qu'est-ce qu'on pourrait venir au Québec, comment on pourrait l'apprendre? Puis là, ben j'étais comme, waouh, tout le monde le respecte dans mon entourage, puis même que le bilinguisme est vu comme une grande richesse. Et là, quand j'étais à Calgary pour le congrès, Michelle Rampol, elle me dit, Gab, j'aimerais ça que tu viennes sur le podcast. Puis je veux que tu parles en français sur le podcast, puis je veux qu'on parle de l'importance du français, du bilinguisme, puis de la nation québécoise qui a tout à enseigner au Canada. Puis moi, ça, je trouve ça respectueux. Gaétan Mallette, il a été élu au nord de l'Ontario par une communauté à 95% francophone. Alors moi, je regarde ça, puis je suis un gars optimiste dans la vie, puis j'étais comme, wow, le français est admiré. Le français, les gens, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'ils le respectent, puis qu'ils ont le goût de l'apprendre. Est-ce que c'est tous les Canadiens qui aiment les Québécois? Est-ce que tous les Québécois aiment les Canadiens? Là, c'est comme devenu un débat, comme si je minimisais le recul du français, chose qui n'est vraiment pas le cas.
Okay.
Je ne minimise pas, je me lève en chambre pour la défense du français puis pour la promotion de notre langue, puis il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de recul. Ceci étant dit, moi, ce que je vis, c'est que les gens ont de l'air de l'apprécier puis ont de l'air de voir le bilinguisme comme une richesse qu'eux n'ont pas.
Mm-hmm.
Puis moi, quand je vois des communautés francophones dans le pays, ça me rend fier. Puis j'ai l'impression que quelque part, ils viennent tous de chez nous, parce que dans le fond, on le sait, tu sais, Montmorency-Charlevoix, c'est le début de l'Amérique, des trois Amériques.
En fait,
ça a commencé chez nous. Fait que si tu parles français dans l'Ouest canadien, quelque part, tu as des racines, sûrement à l'île d'Orléans, dans Château-Richer, à l'Ange-Gardien ou autre. Alors, moi, ça me rend fier, mais ça a comme été pris comme si je minimisais. Et c'est vraiment pas le cas.
Puis je trouve ça intéressant que tu parles d'Ottawa parce que je suis allé à Ottawa puis je me suis fait servir en français de très bonne manière tout le long de mon séjour à Ottawa, ce qui n'est pas toujours le cas à Montréal. Puis de là ma question, est-ce que c'est inquiétant de voir que le français est presque plus important puis plus valorisé à Ottawa qui peut l'être, par exemple, à Montréal présentement?
C'est certainement pas une bonne nouvelle, si c'est ça ta question. Puis moi, je pense que le français, on doit le défendre absolument. Tu sais, on est la maison mère du français en Amérique. Mm-hmm. On doit s'assurer de le rester. On doit s'assurer d'être attirant puis intéressant. Puis, tu sais, je vais donner un exemple, puis je vais ramener ça à une période sombre, mais la pandémie. Il y a eu un bout où mes enfants, ils étaient plus jeunes à l'époque, puis ils écoutaient des vidéos, puis à un moment donné, ils se sont mis à parler en français de France.
Oui, parce qu'il y a tellement de YouTubers
en français de France. Puis là, j'étais comme, les boys, comment ça, tu sais, vous me parlez de même? Puis là, j'ai comme allumé que c'est parce que ça les intéresse, puis ils trouvent ça cool, qu'ils se mettent à parler en français de France. Puis je me suis dit, on a toutes, nous autres, pour impressionner positivement. Pourquoi on ne se concentre pas sur être vraiment la place la plus cool en Amérique?
En effet.
Pourquoi le monde ne vienne pas dire, bien, au Québec, là, dans le domaine des affaires, j'avais un terme qui disait donner des volets de business aux autres. Tu sais, que tu as un gros concurrent international qui débarque chez vous, là, mais tabarnouche qui trouve ça tough faire concurrence parce que tu es vraiment ça à coche, puis tu es bon, puis tu travailles fort, puis tu es exceptionnel. Moi, je pense qu'on a tout. Le Québec a tout pour influencer positivement le reste du Canada. On a une richesse qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont, le bilinguisme. On a une histoire, on a une culture, on a une nation qu'on a, faut être fier. Puis c'est passé par des difficultés. On est d'accord là-dessus. On n'a pas fait ça en se faisant des accolades puis du saut de mouton, là. Mais la difficulté forge du caractère. Puis le caractère, un moment donné, finit par forger une nation qui est solide puis qui sait qui y aller. Ça, moi, je pense qu'on a le droit d'être fier de ça. Puis qu'on a le droit, au lieu de tout le temps vouloir se refermer, qu'on a le droit de s'ouvrir puis de dire « Hey, venez chez nous, là. Vous allez voir comment on est hot. Puis ça va vous donner le goût d'être bilingue, vous aussi, puis d'apprendre le français. » Puis c'est comme ça, je pense, qu'on va aider notre langue à croître.
Très, très, très d'accord. Petite question personnelle en terminant. J'ai vu que Pierre Poilievre était venu s'entraîner dans ton gym quand il est venu à Québec.
Ouais.
Es-tu en shape?
Il est très en forme.
Moi, je voyais ça, il a des bons biceps.
Oui, mais au-delà de ça, c'est un gars qui valorise beaucoup l'activité physique puis qui valorise l'importance de bouger puis de s'entraîner malgré des horaires complètement débiles.
Vous entraînez-vous ensemble à Ottawa?
Quelques fois, ça l'arrive. Puis, tu sais, écoute, je suis vraiment pas à son niveau, là, dans le sens qu'il se promène à travers le Canada à chaque jour puis à chaque semaine puis tout ça. Mais quand on a la chance, il me demande des fois si ça me tente de venir le challenger un peu. Mais au-delà de ça, je pense que cette vidéo-là a amené l'activité physique dans la politique. Puis pour moi, c'est un de mes enjeux de vie, là. Tu sais, je me suis présenté en politique à la base parce que j'étais un porteur de messages d'activité physique. Et tu sais, peut-être que je vais le scooper, mais je travaille très fort pour avoir dans la prochaine plateforme électorale énormément de mentions sur comment on peut améliorer l'activité physique dans le pays, parce que je pense que c'est un enjeu national. Puis Pierre, en venant au gym, a un peu lancé ce message-là. C'est important. Ouais. Et ça doit devenir un enjeu politique.
Gabriel Hardy, député pour le Parti conservateur du Canada de Montmorency-Charlevoix. Merci pour ton passage en studio à Boulevard 101.
Merci à vous autres.
Tu reviens n'importe quand parler d'activité physique. Non, non, mais moi, ça me passionne. Moi, il faut que les jeunes bougent. Ouais. La mère des enfants est enseignante en éducation physique.
Et voilà.
Ma conjointe actuelle est une coureuse. Elle s'entraîne comme une machine. Nos quatre enfants, maintenant, de notre famille recomposée, bougent. Faut être en forme physique parce que le mental suit. Puis comme tu l'as si bien dit, on passera pas 20 années dans les hôpitaux. Ça va être juste à la fin de notre vie. Puis on va la prolonger, cette belle vie.
Il y a un terme qui dit « Le but dans la vie, c'est de mourir jeune le plus vieux possible. »
C'est ça.
Ben, c'est ça. T'sais, tu veux avoir 90 ans puis être encore en train de jogger, faire du vélo, aller avec tes petits-enfants puis jouer au golf.
Plein ça. J'ai fait le pentathlon des neiges avec la gang de week-end samedi dernier. Il y avait des participants 78, 82, 84 ans.
Merci. Merci de démontrer l'exemple.
Ah oui, je les regardais puis je me disais « Ouais, c'est monsieur-là que je veux être plus tard. »
Exactement.
Merci, Gabriel Hardy.
Merci à vous autres.
Toujours un plaisir. Rémi Villemur suit excellent chroniqueur au 99.5 Montréal qui va s'en venir avec nous. On va revenir sur le cas Marois Risky qui a été exclu du caucus par le nouveau chef Charles Milliard, mais on va aussi parler de Soraya Martinez-Ferrada, la mairesse de Montréal, Mathias, parce que figure-toi donc qu'elle s'est donnée pour ses 100 premiers jours une note de 80%.
C'est bon, 80%.
80%, c'est bon. Moi, quand les gars me ramènent 80% à l'école, good job les boys, on tape là-dedans. Puis c'est pour ça que des fois, ils ont un petit spécial d'écouter le Canada à place d'être dans leur cours de français. Donc, est-ce que c'est véridique, cette note-là?
Est-ce qu'elle le mérite, cette note-là?
Est-ce qu'elle le mérite vraiment? On va parler de notre métropole. Faut toujours en parler. On vient d'en parler pour le français. Faut toujours en parler. C'est le moteur économique du Québec. Donc, on va parler de ceci avec Rémi Villemur dans un instant à Boulevard 101, l'émission d'En Jase.